vos questions, nos réponses.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio France Alzheimer. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vos questions, nos réponses. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de la radio ou la page Facebook de l'association.
Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant, celui de la formation des aidants à la maladie à Cordes-Lévy, une maladie neurodégénérative apparentée. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir la vice-présidente de France Alzheimer Gare, Denise Trubel. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer cette émission, comment se caractérise la maladie à Cordes-Lévy au quotidien? Quels sont les symptômes?
Alors la maladie à Cordes-Lévy fait partie des maladies neurodégénératives que, comme vous l'avez évoqué. Ça représente quand même à peu près 200 000 malades, personnes malades en France. Donc ce n'est pas négligeable. Elle se distingue de la maladie d'Alzheimer par un certain nombre de symptômes spécifiques qui en compliquent d'ailleurs la prise en charge médicale et l'accompagnement. Et ces symptômes ont un retentissement très important au niveau des accompagnants familiaux, également des professionnels. Donc il nous a semblé de ce fait-là important d'évoquer plus spécifiquement cette maladie dans les actions de France Alzheimer. En dehors du déficit cognitif qui est un petit peu différent de celui de la maladie d'Alzheimer, les symptômes très particuliers et qui sont souvent précoces dans l'apparition de la maladie, c'est d'une part des très importantes fluctuations de l'état cognitif, de l'état émotionnel, de la vigilance, c'est-à-dire que la personne peut être à quelques heures de différence, se présenter de manière très différente, c'est-à-dire des moments où elle apparaît avoir un fonctionnement tout à fait normal et d'autres moments où elle est en grande difficulté, un petit peu somnolente, peu réactive, très désorientée. Voilà, donc ça c'est un symptôme majeur. Le deuxième symptôme majeur, ce sont des hallucinations, essentiellement visuel, donc la personne malade perçoit, voit des choses, entend des choses qui n'existent pas et auxquelles elle adhère. Donc ça peut être extrêmement gênant également. Autre symptôme qui passe plus souvent inaperçu, c'est des problèmes de sommeil, c'est-à-dire que dans le sommeil profond, où la personne normalement ne bouge pas, ces personnes malades ont une activité motrice et, qui peut être parfois même assez violente. Ils peuvent donner des coups aux compagnons de lit. Et ça peut s'accompagner de paroles, de cris, etc. Donc ce sont des choses qu'on ne rencontre pas dans la maladie d'Alzheimer. J'ajouterai un quatrième symptôme qui est de la série de troubles moteurs, un certain ralentissement, une certaine raideur qui s'installe parfois assez précocement et qui en fait correspond à un syndrome parkinsonien. Et on considère que cette maladie est très proche de la maladie de Parkinson, avec donc au premier plan quand même un déficit cognitif et des troubles du comportement. Voilà en gros les particularités de cette maladie.
Du coup, pourquoi une formation spécifique pour les aidants s'est avérée nécessaire, Denise ?
Cette formation, on l'a conçue comme une formation complémentaire, c'est-à-dire pour des aidants qui suivent la formation classique qui concerne les maladies déficit neurocognitif majeur. On a très rapidement, enfin de ça nous est remonté de beaucoup d'associations, pointé le fait qu'il y avait une nécessité pour les aidants de maladies à Cordes-Lévy de compléter par justement une approche, une aide à l'accompagnement par rapport aux symptômes que j'ai évoqués et qu'il y a besoin d'informations complémentaires pour ces aidants, d'informations pour qu'ils comprennent les symptômes et qu'ils ne considèrent pas que c'est le malade qui fait exprès, enfin qui adopte une attitude réactionnelle, mais que ça fait vraiment partie de la maladie. Et puis surtout d'aider les aidants à faire face. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le malade vous dit que dans l'arbre qui est en face de sa fenêtre, il y a, je sais pas, un singe qui est en train de sautiller. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, hein? Donc, ce n'est pas facile pour les aidants de réagir par rapport à ces, ces symptômes particuliers, il y a nécessité de leur indiquer quelques pistes pour mettre en place des bonnes stratégies. Ce qu'on signale aussi très souvent chez ces malades, c'est qu'ils ont une conscience très aiguë de leurs troubles, statistiquement plus fréquemment que dans la maladie d'Alzheimer. Donc il faut prendre ça très en compte et ne pas blesser le malade parce qu'il a ces symptômes un peu atypiques.
Pouvez-vous nous en dire plus sur le contenu de la formation ?
On part de données qui sont de l'information pure. Qu'est-ce que c'est que la maladie à Cordelévy ? Qu'est-ce qu'il y a comme lésion ? C'est un peu différent, la maladie d'Alzheimer. Sur le plan des lésions, insister sur les symptômes, expliquer notamment ces symptômes très, très spécifiques de la maladie, expliquer la nécessité de faire le diagnostic et puis de la faire au bon endroit, de ne pas trop s'égarer, pas faire de l'errance diagnostique dans la mesure du possible. Ceci, ça représente presque la moitié de la formation, mais l'essentiel, je dirais, est consacré précisément à l'accompagnement que l'on peut proposer aux aidants de manière générale et de manière spécifique par rapport à la réponse qu'il faut apporter quand la personne parle de ses hallucinations ou que faire lorsqu'une personne est très fluctuante. Un jour, elle a l'air tout à fait bien et puis le lendemain, c'est très difficile d'arriver à l'associer à des activités. Comment on fait ? Comment on gère ça au quotidien ? Voilà, donc c'est un contenu qui se veut surtout pratique, hein, et qui ne va pas reprendre des éléments qui ont été abordés dans la formation classique des aidants, qui sont par exemple les aides auxquelles la personne malade, la famille peut prétendre, puisque ces aides ne sont pas spécifiques. On ne revient pas là-dessus. De même, on ne revient pas spécialement sur comment l'aidant se préserve lui-même, parce que ça, c'est rien de spécifique non plus. Donc, on n'insiste que sur les aspects propres à cette maladie. Voilà, et on a conçu le programme sur une journée, et qui doit, comme le nombre de malades est moins important, on l'imagine, en tout cas pour démarrer, de l'organiser sur un week-end par région.
Au quotidien, du coup, quelles sont les plus grandes difficultés des aidants face à leurs proches ?
Leurs plus grandes difficultés, des symptômes que je viens d'évoquer, c'est aussi cette conscience souvent très aiguë des troubles que présente la personne par la personne elle-même, hein, qui dit à ce moment-là des choses très douloureuses à entendre pour les accompagnants. Je suis complètement foutue, je ne vaux plus rien, je ne sais plus rien faire. C'est plus intense que dans la maladie d'Alzheimer et en tout cas beaucoup plus fréquent. Ça, c'est quelque chose de difficile à vivre, hein, pour l'aidant. Et puis, comment on gère le quotidien quand on a des fluctuations, qu'on a prévu, par exemple, de faire une sortie l'après-midi, que la personne n'est pas du tout en forme à ce moment-là. Il faut savoir annuler et s'adapter. Cette maladie nécessite probablement plus de souplesse, une adaptation au quotidien qui est assez propre à cette maladie. Donc, on apprend à l'aidant à s'adapter en permanence, savoir renoncer quand c'est pas le moment de faire telle chose.
Et donc le but, c'est qu'ils se sentent mieux pour faire face à la situation.
Le but, c'est que le binôme de la personne malade avec son aidant se sente mieux, bien sûr, hein, parce que si l'aidant réagit mal, il peut blesser, il peut humilier la personne malade et on va à ce moment-là aggraver cette difficulté de la personne malade à faire face à ses troubles. Donc il faut plutôt que les dents soient extrêmement soutenants, extrêmement rassurants. On sait très bien, et c'est pas propre à la maladie, c'est que quand l'un va mal, l'autre va mal, hein. Donc il faut agir sur les deux, hein. Il faut que les deux se sentent mieux, la personne malade plus soutenue, mieux accompagnée, avec un aidant qui sait faire face à l'imprévu, et puis un aidant qui lui arrive malgré tout à se préserver dans tout ça.
Et enfin, pour terminer, Denise, pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées, comment s'inscrire à cette formation ?
Alors, Il faut prendre contact avec l'association départementale dont on dépend et évoquer cette demande. L'association départementale doit faire remonter chaque demande de ce type au niveau de la région. Normalement, chaque région a désigné un référent maladie à Cordes-Lévis. Et c'est lui qui va constituer le groupe. Il faut que le groupe comporte 8 aidants minimum pour pouvoir l'organiser et trouver le lieu, organiser avec psychologue qui est une psychologue aussi spécifiquement formée à cette formation complémentaire. Donc voilà, c'est le chemin, c'est de passer par l'association départementale qui, elle, doit se tourner vers le référent maladie apparentée de la région.
Merci beaucoup, Denise, de nous avoir accompagnés et d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie et bonne fin de journée pour tout le monde.
Et merci aussi à vous, chers auditeurs, de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr réagir, poser vos questions sur l'espace commentaire de la radio ou sur la page Facebook de l'association. Et puis, vous pouvez réécouter l'ensemble de nos émissions en podcast sur l'application mobile de la radio ou la page de la radio www.radiofrancealzheimer.org. Prenez soin de vous et à bientôt.
Si vous aussi vous avez des questions, des interrogations concernant la maladie, n'hésitez pas à nous en faire part au 09 72 19 04 23.